Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben, j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC.
Vendredi 25 novembre,
l'info sur RMC.
Dans une poignée de secondes, il sera 8h et vous êtes bien sur RMC et RMC Story, le journal. Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Lire, compter, 20% des élèves de 6e ont des difficultés. Le niveau des collégiens inquiète. Quel progrès dans la prise en charge des victimes? On se pose la question cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous irons aussi à Doha en direct. Les Bleus se préparent à affronter dans 24 heures les Danois, adversaires redoutés.
Un constat alarmant ce matin, 20% des élèves de 6e n'ont pas le niveau.
Des élèves en difficulté, voire en très grande difficulté scolaire. L'éducation nationale dévoile aujourd'hui les résultats des dernières évaluations pour l'élémentaire et le collège. Les bases en mathématiques et en français ne sont pas acquises. Reportage RMC dans une école près de Lyon, Vincent Chevalier, Siam Spencer.
Quelques mois après sa rentrée en 6e, Samuel rencontre toujours quelques difficultés en cours.
Parfois en français, des fois en histoire.
Certains exercices posent plus problème que d'autres.
La rédaction, tout ce qui est écriture orthographe.
Pour Géraldine, sa maman, l'école primaire ne lui a pas forcément permis d'être prêt pour le collège.
Les exigences, l'entraînement, notamment en français, la rédaction, notamment à la discipline aussi en classe, à l'attention et au travail à la maison.
Des parents sont donc obligés de faire aider leur enfant comme soigné pour sa fille de 12 ans.
Les orthophonistes, les aides aux devoirs que le collège propose, ça va mieux, mais il y a eu besoin, oui. Pendant 3 ans.
Impossible de tout mettre sur le dos des écoles élémentaires qui manquent cruellement de moyens, selon Benjamin Grandener, directeur d'établissement, co-secrétaire du syndicat SNUIPP-FSU dans le Rhône.
Tous les enfants n'ont pas droit à toutes les heures d'école auxquelles ils ont droit, parce qu'on manque de remplaçants. On avait des dispositifs d'aide aux élèves les plus en difficulté qui sont fortement abîmés, donc on est tout le temps en train de choisir les élèves qui vont être aidés et ceux qui ne vont pas pouvoir l'être.
Si les évaluations ne sont pas bonnes depuis plusieurs années, tous les intervenants sont d'accord. La crise du Covid a considérablement impacté le niveau des élèves.
Après l'effroi, l'émotion, l'hommage à Vanessa une semaine après son meurtre à Tonneins dans le Lot-et-Garonne. Cette jeune fille de 14 ans enlevée, violée puis tuée par un automobiliste près de son collège. Sa famille organise une marche blanche en fin d'après-midi, juste avant une messe a été prévue dans l'église de la commune. Le père Philippe Allouin a préparé ce moment avec les parents. Il témoigne sur RMC ce matin.
Ce sont des parents latino-américains. La maman est de Colombie, son compagnon est du Pérou. Et la foi est très importante pour eux. Ils ont besoin de prier. Et c'est eux qui ont bien choisi les textes que nous entendrons à la messe. Et la prière, c'est eux qui l'ont écrite avec leurs propres mots en espagnol. Et on la traduira en français.
Et je vous le rappelle, le meurtrier de Vanessa est en prison, mis en examen pour viol et meurtre, meurtrier présumé. Dans ce contexte, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, plus de 100 féminicides recensés par les associations depuis le début de l'année. Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui à Dijon aux côtés des gendarmes en formation sur la prise en charge des victimes. L'Élysée met en avant d'importants progrès sur le terrain. C'est moins évident, Lucille Pascanet.
Une meilleure formation des agents, plus de places en hébergement d'urgence, plus de téléphones grave danger. Autant d'avancées notables pour Pauline Soubienine, avocate spécialiste des violences faites aux femmes. Mais il y a encore du chemin à faire.
Dans les faits, on n'y est pas encore. Ça commence au dépôt de plainte. Pas plus tard qu'un mois, une de mes clientes, pour un fait de viol conjugal, on lui a posé la question de savoir si elle avait joui. Un autre exemple, ça arrive encore en commissariat, où en fait on traite les femmes de menteuses alors qu'elles viennent déposer des plaintes pour des faits de violences conjugales.
Des progrès restent donc nécessaires, notamment face aux violences intrafamiliales. Dans plus d'un tiers des cas, violences conjugales riment avec maltraitance sur les enfants, selon un sondage de Solidarité Femmes. Françoise Brier dirige cette association.
À partir du moment où il y a des violences conjugales, on doit immédiatement sécuriser la femme, mais aussi les enfants. Parce que les auteurs de violences utilisent les enfants pour poursuivre leur violence. Et donc, c'est extrêmement important, voilà, d'avoir des décisions pour l'exercice de l'autorité parentale qui soient exclusives pour la victime.
Elle préconise aussi, entre autres, la création d'un tribunal spécialisé pour mieux protéger les femmes et des séances de prévention à l'école.
La route est encore longue, mais parfois ça s'accélère. Hier, une première victoire pour les femmes françaises. L'Assemblée nationale a voté à une large majorité l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Proposition des Insoumis. Débat nettement moins respectueux durant la nuit. Menaces, insultes autour d'une autre proposition de la France Insoumise, le retour des soignants non vaccinés. Séance suspendue hier soir. L'opposition accuse les macronistes d'avoir empêché le vote du texte.
RMC. Coupe du Monde 2022.
Demain, les Bleus affrontent le Danemark. Rendez-vous à l'heure du goûter, ça sera à 17h. Dernière mise en place, ça devrait d'ailleurs bouger en défense avec le retour attendu de Raphaël Varane en charnière centrale. Loïc Braillet en direct depuis Doha pour RMC. Loïc, il faudra que les Bleus soient solides face aux Danois qui nous ont embêtés plus d'une fois sur les dernières confrontations.
Oui, le Danemark est devenu au fil du temps le grand rival des Bleus qu'ils croisent très souvent au premier tour d'une phase finale, notamment de Coupe du Monde. Ça a été le cas en 98 en France, en 2002 en Corée du Sud, mais aussi il y a 4 ans en Russie et donc demain au Qatar. Les Bleus n'aiment pas affronter les Danois contre qui ils ont toujours du mal. Les deux derniers matchs cette année, 2 défaites. Il y a 4 ans en Russie, match nul, 0-0. Il faut remonter à l'Euro 2000 pour retrouver une victoire française en compétition officielle. Les Bleus avaient fini par gagner la compétition sur le même schéma d'ailleurs qu'en 2018. C'est donc une sorte de bête noire que vont défier les hommes de Deschamps qui restent malgré tout détendus. Cela s'est vu hier lorsqu'ils ont reçu la visite de leur famille dans leur camp de base. Un groupe soudé qui baigne dans une bonne ambiance où de nouvelles affinités se dessinent, mais un groupe bien conscient qu'il s'agit demain d'un tournant qui peut lui offrir la qualification pour les huitièmes de finale.
Loïc, et on se pose aussi cette question ce matin, comment va Neymar, surtout comment va sa cheville, la star brésilienne qui s'est blessée sur un tacle d'un défenseur serbe hier durant le match contre la Serbie, a fini en pleurs sur un banc. Le Brésil retient maintenant son souffle, le compte à rebours a commencé avant le prochain match du Brésil lundi prochain, ça sera face à la Suisse. Aujourd'hui, la deuxième journée de la phase de groupe commence ce matin à 11h avec le Pays de Galles contre l'Iran. Les supporters iraniens qui profitent de la compétition pour afficher leur soutien aux manifestantes pour la liberté durement réprimée dans leur pays. Martin Bourdin les a rencontrés à Doha pour RMC.
Sur son maillot rouge de l'Iran, Mehdi a écrit un slogan au marqueur noir en anglais et en arabe, Woman Life Freedom, liberté de vie des femmes.
Je suis là pour mon pays, pas pour mon équipe de foot.
Il est l'un des rares Iraniens vivant encore au pays qui accepte de s'exprimer.
Notre gouvernement n'aime pas trop qu'on soit là pour être la voix de notre peuple. Je ne sais pas si je pourrais rentrer au pays facilement.
Les voix des protestataires sont donc pour la plupart celles d'Iraniens expatriés.
Ici, le monde entier nous entend. En Iran, les gens tentent de se faire entendre, mais ils sont tués. Donc nous sommes leur voix ici.
Avant chaque match de l'Iran, ils marchent autour du stade avec des photos de victimes de la répression. Et une fois dans les tribunes...
Après les hymnes nationaux, on crie « Liberté de vie des femmes » 5 fois. Et à la 22e minute, on chante notre nom de code « Mahsa Amini ».
Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans dont la mort en septembre a déclenché cette vague de protestations en Iran. Le t-shirt noir de cette femme lui rend hommage.
J'aurai toujours l'espoir d'obtenir une vie meilleure. Plus de liberté pour les femmes, les enfants, il s'agit de nos vies.
Ce ne sont donc pas les quelques drapeaux symboles de cette opposition confisqués à l'entrée du stade lors du premier match qui vont entamer leur détermination.
Le Qatar qui s'est d'ailleurs abstenu hier dans un vote à l'ONU contre la répression en Iran. Et puis ce volte-face de la Fédération Internationale de Football, la FIFA va désormais autoriser les drapeaux arc-en-ciel dans les stades du Mondial, signe de soutien à la communauté LGBTQI+, décision prise sous pression de plusieurs fédérations qui menaçaient d'attaquer l'instance en justice.
C'était le journal de Marguerite Dumont.